L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 286e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. C'est le début de la 16e saison. L'émission a été lancée en octobre 2010. On a fait du chemin, nous sommes toujours là.
Putain, 16 ans.
Tous les deux. On est là, tous les deux. 16 ans, c'est plus que le mandat de feu, mon prédécesseur, qui... Pardon. Bon, on va arrêter là avec les caricatures.
Ouais, tout ça, c'était un déconnat.
C'était un déconnat. Effectivement, donc on n'était pas très disponible pour la fin de la saison dernière, pour des raisons plus ou moins dépendantes de notre bonne volonté, et nous nous en excusons. En tout cas, on revient. Nous sommes le dimanche 21 septembre, c'est l'automne, et l'écho des gnous revient pour vous consoler. Et on va commencer, comme il est de coutume, par les actualités internet et vie privée. Avant de faire un peu de vieux, on va faire un peu de nouveau, et on va parler du feuilleton de l'été, le filtrage, le filtrage en fonction de l'âge, pour les utilisateurs de sites à contenu pornographique.
Le grand feuilleton de l'été.
Ouais, il a bien rigolé.
Le dernier épisode, je ne m'y attendais pas du tout. Hein, suspense, que se passe-t-il à la fin? On y va. Donc, le contrôle d'âge a commencé vers juillet. J'ai plus la date exacte en tête. C'était l'ARCOM qui est passé à l'attaque. Début août, apparemment. Qui est passé à l'attaque donc, contre un ensemble de sites. Il y a un arrêté qui est passé en mars 2025 donc qui donnait une liste de sites dans le collimateur. Il y en avait 17 avec des représentants dans différents pays de l'Union européenne, donc Chypre, République tchèque, Portugal, etc.
Pierre, il y avait quand même une valse à 3 temps, hein, plus que 3 temps. Attention, on va sévir de la part de l'ARCOM. Si vous faites rien,
tout à
on
fait, tout à dire. Fait.
Bon, à un moment, on se demandait si vous allez vraiment passer à l'acte si vous me passez le mot, Pierre.
Tout à fait. Et donc ils sont passés. Il y a eu une obligation pour les sites pornographiques de mettre en place les sites de cette liste, en tout cas, ont l'obligation de mettre en place des contrôles. Alors certains sites ont refusé de mettre en place de tels contrôles. Donc on pense notamment au site du groupe Halo. Voilà, c'est donc les sites de les principaux sites, donc les YouPorn, Pornhub et autres. Donc ces sites-là ont choisi de refuser de respecter la loi et en fait plutôt que de respecter la loi
on préférait bloquer
ils ont préféré bloquer purement et simplement l'accès en France.
Tout à fait. Quand on dit en France, c'est avec une IP qui est géographiquement localisée comme étant en France.
Voilà, attention, plot twist. Donc ça, c'était la réaction de ces sites là les autres sites ont décidé de mettre en place un contrôle d'âge comme on leur a gentiment demandé, sans leur donner de solution, parce que l'État est un peu comme ça, on est un peu joueur, on leur dit, vous avez l'obligation de faire ça, de respecter la vie privée, vous n'avez pas le droit de le faire avec une carte bancaire, vous n'avez pas le droit de stocker des cartes d'identité, mais vous devez le faire.
Je dirais, pour ce qui est le stockage des cartes d'identité, encore, même si, on rigolera dans le reste.
On rigolera dans la suite. Donc, les sites en question ont mis en place des contrôles avec des prestataires extérieurs, parce que s'ils font le contrôle eux-mêmes, justement, ça pose problème du point de vue d'un respect de la vie privée. Donc, il y a des sociétés qui ont proposé différents produits, genre HVerif.
C'est le principe. Hein. Le site n'a pas les informations concernant l'identité des utilisateurs et l'organisme, la société qui fait le contrôle, ne doit pas savoir ce que vous allez consulter.
Exactement.
Et on va continuer, ce sera encore plus drôle à la fin.
Et donc, comment qu'on fait techniquement pour vérifier l'âge? Et ça, c'est un sujet qui est très très compliqué, effectivement. La réponse est, il n'y a pas de réponse simple, parce que justement, l'État, dans la grande logique libérale qui est la nôtre, l'État n'a pas proposé ce service. Or, si je puis me permettre, l'État civil, c'est un service de l'État et c'est là le meilleur moyen de connaître l'âge des gens et c'est l'État qui donne les cartes d'identité, qui peut les valider. Il y a le premier à pouvoir mettre en place un contrôle d'âge efficace en respectant la vie privée était l'État. Bon, ils ont choisi de se défausser sur le privé, histoire de plus se marrer. Et donc, effectivement, alors je remercie du fond du cœur les journalistes de Next Impact.
Parce on les remercie régulièrement, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Mais moi, j'avais vraiment pas envie de faire les essais qu'ils ont faits. Lorsque j'ai vu passer... En fait, moi, je craignais la rentrée de l'émission parce que je me disais, putain, ouais, mais il va falloir le faire, le test. Et eux l'ont fait. Donc, merci à vous parce que, au moins, j'ai pas eu à essayer de me connecter sur des sites porno juste pour vérifier à quoi ressemblait le contrôle d'âge et vérifier à quel point c'était n'importe quoi.
Et potentiellement laisser des données personnelles.
Ouais, non, justement, c'est ça le but du jeu. Attention. Donc, à quoi ça ressemble tout ça ? Donc, les différentes méthodes sont avec un selfie avec estimation de l'âge, une photo d'un document d'identité et, plus surprenant encore, l'empreinte numérique de votre courriel pour essayer d'identifier à peu près votre âge. Il y en a un qui n'a pas suivi toutes les actualités. Il y a Alexandre qui vient de se retourner en sursaut parce qu'il n'a pas suivi celle-là. C'est dommage, Alexandre. Alors, les différentes méthodes. Prenons le contrôle avec la photo d'un document d'identité. Où puis-je trouver une photo valide d'une carte d'identité ?
Sur une carte d'identité.
Tout à fait. Mais il y a d'autres endroits. Par exemple, le TikTok de Gabriel Attal.
Ah, il a mis sa... Oui.
Oui, parce qu'il y a quelques temps, Gabriel Attal avait publié pour faire la promotion de France Connect V2 ou d'un truc autour de France Identité. Il avait publié des vidéos et photos et il y avait sa carte d'identité bien visible, suffisamment nette pour que certains sites puissent l'accepter.
Alors, quand... On se rend compte que Gabriel Attal dit, c'est quand même dans son habitude de raconter n'importe quoi en faisant des propositions complètement farfelues concernant tout ce qui est vie privée sur Internet et contrôle de l'accès à Internet, enfin l'accès des utilisateurs à Internet. On peut dire, bon, il joue un rôle. Hein, en vrai, il n'est pas si bête. En fait, si. Non, ça montre un truc très intéressant enfin, d'un point de vue politique, c'est qu'en fait, il est vraiment naïf.
Voilà.
C'est pas un rôle qu'il joue.
Après, évidemment, il y a d'autres solutions. On peut prendre, par exemple, oui, c'est vrai que la photo de la carte d'identité de Gabriel Attal, c'est quand même l'une des meilleures méthodes, je trouve. Mais on peut prendre aussi juste des documents qu'on va flouter. Hein, t'as le droit de flouter ton document, comme ça, tu leur donnes pas ton nom, prénom. Si c'est flouté, c'est bon, ça peut être passé. Il y a les journalistes de Next Impact qui ont donné une carte d'identité pour Dora l'exploratrice. C'est passé. Pas de problème. Dora a le droit d'aller sur les sites.
En même temps, ils ne peuvent pas vérifier l'existence d'une personne. Pas possible.
Non, mais tu peux vérifier que la carte d'identité est valide. Et avec le numéro de la carte d'identité, normalement, l'État peut te dire que le numéro de la carte d'identité est correct et correspond bien à la date de naissance indiquée. Sauf que pour ça, il faudrait que l'État s'implique tout simplement là-dedans, mais ce n'est pas le cas. C'est loin de nous. Nous, on donne des ordres et c'est au privé de se débrouiller derrière, je rappelle, credo du libéralisme. Hein.
Après, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que l'État... À lui, je dirais le fait qu'il y a des sites pornographiques qui se développent en ligne. Et que...
C'est un autre sujet. Maintenant, le contrôle d'âge, c'est nécessaire pour d'autres choses que les sites pornographiques. Hein.
Je suis d'accord.
Il y a d'autres sujets.
Surtout qu'en plus, ils veulent contrôler, notamment Gabriel Attal, à interdire certains réseaux sociaux aux mineurs ou aux mineurs de moins de 15 ans, ou les fermer après 22h ou 21h, je ne sais plus ce qu'il avait dit.
Voilà, tout ça, c'est des choses qui nécessiteraient d'avoir un service de contrôle d'âge fiable. Et pour que ce soit fiable, l'un des seuls à pouvoir le faire techniquement, c'est l'État. Désolé, hein, ami du libéralisme, eh ben non, l'État, ça a besoin de faire des choses des fois. Et une autre méthode qui est utilisée, c'est ben, la webcam, il faut tourner la tête à droite, à gauche. Eh bien, si vous prenez juste une vidéo de quelqu'un qui tourne la tête, eh ben, ça peut être suffisant pour être accepté. Sachant que si la personne sur la vidéo ne tourne pas la tête du bon côté, la vérification d'âge est refusée, mais il suffit de recharger la page, puis ça va finir par demander le bon côté. Parce que ça change aléatoirement, justement. Pas con. La méthode avec l'empreinte numérique, j'ai pas grand chose à en dire. C'est quand même une méthode qui est assez chelou. En fait, ils essayent de déterminer comment dire, à partir de votre adresse mail, les traces qui ont été laissées sur Internet, les sites sur lesquels vous êtes inscrit, des comptes qui ont été créés, etc., pour en déduire à peu près l'âge que vous avez. C'est en gros, ils délèguent le contrôle d'âge à des gens qui n'avaient pas le moyen de faire le contrôle d'âge, au final. C'est assez audacieux. Puis, c'est pas comme si tu pouvais pas indiquer l'adresse mail de tes parents.
Aussi.
Au hasard.
Ou de n'importe qui, en fait.
Voilà. Mais on parle de contrôle d'âge, on peut prendre
l'adresse mail de majeur, ça marche.
Donc, l'ARCOM est plutôt contente que la vérification d'âge ait été mise en place, mais plusieurs décident, du coup,
Je serais curieux de connaître l'impact sur les recettes publicitaires de ces sites.
Alors, il n'y a pas que ça. Puis, il y a aussi le fait que des fois, il suffit de cliquer à côté du contrôle d'âge pour déflouter, pour accéder aux vidéos, il y a des trucs comme ça. Non, mais des fois, le contrôle d'âge est vraiment primitif. Des fois, il suffit juste de passer un cookie de 0 à 1 pour avoir le droit de consulter le site. Et globalement, c'est ça la dernière étape, je trouve. Ah oui, l'une des solutions utilisées par les sites, donc la solution AgeGo, enregistre les contenus auxquels les internautes accèdent. Donc, l'anonymat, hop, dans le cululu. Et enfin,
qu'une des conditions, c'est que le fournisseur, l'authentificateur d'âge, ne doit pas connaître les sites auxquels vous voulez accéder. Il ne fait que donner au site qui le requiert l'âge que vous avez, ou plutôt confirmation que vous êtes bien majeur.
Tout à fait. Et une dernière pour la route que moi j'ai trouvé très très drôle. Le fournisseur d'accès Internet mobile, Free, donc Free Mobile, a annoncé une nouvelle fonctionnalité. Et j'avoue, quand je vois la date, je ne peux pas me dire qu'ils n'y ont pas pensé. C'est pas possible. J'aime bien. C'est une coïncidence troublante, le moins qu'on puisse dire. Free Mobile a annoncé un service de VPN gratuit sur tous ses forfaits mobiles. Lorsque vous demandez à Free Mobile l'activation de ce service, pendant de mémoire 24 heures ou jusqu'à ce que vous le désactiviez, tous les accès Internet que vous allez faire depuis votre téléphone portable vont être routés à travers différents réseaux pour arriver sur un point de sortie de Free Mobile situé aux Pays-Bas ou au Portugal ou en Espagne. Je suis désolé.
Dans ce cas-là, effectivement, l'utilisation d'un VPN, ça présuppose que la sortie de votre VPN se fasse ailleurs qu'en France.
Pas forcément. L'intérêt du VPN, ça peut être aussi pour faire un chiffrement, pour faire des tunnels.
Dans cet usage-là, précisément, voilà. Je parle. Hein,
pas... Et donc, avec Free Mobile, en un clic, on peut contourner tous les contrôles d'âge, puisque on n'est plus situé en France du point de vue des sites. Donc, les sites n'ont pas imposé de contrôle d'âge.
Après,
ne peuvent pas savoir que tu n'es pas en France.
Non, c'est les parents qui ont accès à cet espace abonné, on va dire.
L'application Free Mobile, si tu l'installes et que tu l'actives, les parents ne sont pas forcément au courant. Hein.
C'est pas faux.
Et ça reste juste encore un trou de plus dans ce système-là. Voilà, c'est le bon feuilleton de l'été. Alors, j'ai hâte de voir la suite, comment ça va continuer, parce que ils le mettent en exemple quand même. Ils disent, regardez, ça se passe super bien. Donc j'ai du mal à dire que ça se passe super bien quand je vois les trous béants, les problèmes de respect de la vie privée, la façon dont ça se contourne. Je suis pas sûr que ce soit un grand succès. Je rejoins également les craintes sur le fait que ça redirige les gens vers les sites plus obscurs qui eux ne sont pas impactés.
Tu parles du dark web?
Non, il n'y a même pas besoin de dark web. Les sites pornographiques, il y en a des millions. Je regardais un humoriste américain récemment dans les late shows.
Il ne s'est pas encore fait virer ?
Si, il s'est fait virer. Mais il finit sa saison. Et donc, il faisait une blague. Et à un moment, pour faire la blague, ils avaient besoin de donner un nom qui ressemblait à un nom de site pornographique. Et ils ont fait une parenthèse pour dire que c'est quand même très difficile de donner un nom qui ressemble à un nom de site pornographique et que ce nom ne soit pas déjà pris. Et effectivement, ayant bossé chez un fournisseur de nom de domaine, je peux vous dire que oui, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'enregistrements de sites qui sont un peu surprenantes, on va dire.
Le tout dans le respect, évidemment, Pierre, de la vie privée.
Tout à fait.
On va parler un petit peu du Nord, en fait, d'une information donc, de la Voix du Nord, pour une fois. c'est pas Linux FR, c'est pas Next Impact. Donc on va parler d'un sénateur donc du Nord qui a déposé une proposition de loi donc pour interdire le trading de données, donc pour interdire l'activité des data brokers en France. Bon, c'est une proposition de loi qui a relativement peu de chances d'être adoptée. Bon, dans la mesure où c'est un groupe minoritaire, c'est un sénateur communiste. Vous savez que la majorité est à droite au Sénat, la majorité à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas. Donc, bon, d'ici là, que ce soit voté par le Sénat et que ça passe à l'Assemblée nationale pour lecture et adoption conforme, il y a peu de chance, mais quand même, c'est intéressant que des élus, bon, on en parle aussi parce que c'est un élu régional, s'intéressent à ce et prennent conscience de ce genre de problématiques. Donc, c'est assez rare pour être souligné. Le texte a été déposé au mois de mai et n'a pas encore été vu en première lecture. Donc, on vous tiendra au courant si on a d'autres activités à son propos.
Après,
donc,
ouais. Si je puis me permettre, par rapport aux data brokers, il y a aussi un. Alors, ça ne vise pas directement les data brokers. Il y a le Data Act qui est passé en Europe qui vise justement à changer radicalement la gestion des informations en Europe. Alors, ça n'a pas directement d'impact sur les data brokers aujourd'hui, puisque leur activité est un peu borderline, ces sites-là. Franchement, on ne les voit pas. On n'est pas censé interagir avec eux déjà. Mais ça serait bien que, effectivement, dans la lignée de textes comme le Data Act, il y ait quelque chose qui soit fait contre eux. Donc, pour rappel, on n'en a pas parlé jusqu'à présent dans l'émission. Le principe avec le Data Act, ça va casser méchamment le modèle des startups, puisque ça permet. Grosso modo, l'objectif, c'est de permettre de mieux choisir les prestataires en ayant des informations sur les informations qu'ils ont récupérées, surtout la possibilité de récupérer les données qu'ils ont récupérées, la possibilité de changer de fournisseur plus facilement et interdire les contrats qui empêcheraient le partage de données. Ça vise pas les data brokers pour l'instant, parce que les data brokers, ils prennent des données, ils en font ce qu'ils veulent. Ils ont très bien le droit de repartager les données qu'ils ont récupérées sur toi, donc ils peuvent se plier à cette loi sans problème. Mais par contre, dans l'optique de ce genre de texte, ça devrait commencer à cibler les data brokers, je suis assez d'accord.
Et sinon, concernant cette proposition européenne, on va avoir, comme d'habitude, les pleurnicheries de ces startups.
Ah, on les a déjà. Elles sont déjà, elles ont déjà commencé.
Déjà là, comme bah, avec les spammers, hein, toutes les boîtes. Bon, maintenant, c'est un peu moins la mode, mais c'était dans les années 2000-2010. Voilà, les fournisseurs d'adresses mail pour des campagnes de publicité, plus ou moins ciblées. Donc, on verra que si votre modèle économique ne permet pas le respect de la vie privée, le problème, c'est pas le respect de la vie privée, c'est votre modèle économique et toutes les larmes de crocodile sur les emplois non créés ou détruits
ne sont que des larmes de crocodile.
Et ouais, d'hypocrisie pure et simple. Donc, le texte, l'article premier, donc, il est court, hein, je ne vais pas vous faire un speech de 15 minutes sur cet article, enfin cette proposition de loi. Toute activité de courtage de données consistant à collecter, agréger, traiter, vendre, louer, céder, échanger ou autrement transférer à des tiers des données numériques à caractère personnel et ou non est interdite. Et donc la sanction, ce serait une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d'euros ou 12% du chiffre d'affaires annuel mondial de la société. Bon, sachant que 10 millions d'euros. Bon, ça dépend le genre de boîte à laquelle on s'adresse, effectivement, si c'est Google ou Amazon. Bon, ça va pas faire lourd. Je propose un premier morceau de musique. Nous allons écouter Call to Panic, la télévision. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com.
Venir les mains. masque l'imposture. C'est l'un des mots modernes qui embrase et captive les foules, mêlant les faits contradictoires, les propos qu'il manipule. Distille et propage une forme de terreur, conditionne la peur. Débat le spectacle sans remords ni pudeur. Vraiment touche le fond, on en perd la raison. Vraiment touche le fond, on en perd la raison. Normal, mais tous les articles au fond racolent conditionnel. Résume tout notre malheur pour occuper l'audience, suivant un peu le vent du jour, au gré des scoops toujours, le point de non-retour. Pas de répit pour garder l'influence. Vraiment touche le fond. On en perd la raison. Vraiment on touche le fond. On en perd la raison. On en perd la raison. On en perd la raison. La télévision capture ton esprit. La connexion attise tes envies. Fenêtre ouverte sur le monde, éclaire les spectres de la misère. L'actualité va faire frémir la société. La société.
C'était Call to Panic, la télévision. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus. Sans si c'est la radio numérique terrestre et campusil.com. Je ne le ferai pas deux fois la prochaine fois. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. Trois mois que vous êtes sevrés. Et elle est de retour. C'est la dégeekalisation. Pierre, Microsoft a mis du peps dans la CPI.
Tout à fait. Alors, devant ce beau sujet, j'ai eu enfin la réponse à une question que moi, je me posais depuis quelques mois, peut-être quelques années. J'en avais parlé dans cette émission. J'étais relativement confiant à ce moment-là sur l'avenir d'ordinateurs avec des processeurs ARM sous Linux, parce que Microsoft voulait qu'il y en ait sous Windows. Et du coup, ma réflexion avait été de dire... Microsoft n'aime pas que, enfin, jusqu'à maintenant, Microsoft n'a jamais autorisé un fabricant à modifier Windows. Il les a seulement autorisé à ajouter des pilotes. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une base de compatibilité qui est imposée à tous les ordinateurs. Et ça, c'est plutôt en fait, une bonne nouvelle pour Linux. Parce que ça veut dire que ces machines-là, elles devraient marcher avec Linux sans avoir besoin de versions adaptées à chacune de ces machines. Et puis, pas du tout. On a commencé à voir apparaître des versions d'Ubuntu, de Fedora ou autres, spécifiquement adaptées à tel modèle d'ordinateur Lenovo avec un processeur ARM, ou à tel modèle d'ordinateur avec un processeur ARM de tel autre fabricant. Et donc j'ai commencé à me poser des questions, à me dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, quid, qu'entends-je, que se passe-t-il? Comment cela se fait-ce? Et donc, pour expliquer ce grand mystère et surtout la triste nouvelle derrière, Alors j'avais d'autres noms pour cette chronique. À un moment, je voulais dire comme quoi on pouvait être déçu de Microsoft, même quand on n'en attendait plus rien. Et donc, ben voilà la petite explication. Microsoft a mis du peps dans la CPI. Qu'est-ce que c'est que tout ceci ? Donc, on va commencer par la CPI. Qu'est-ce que c'est ce gros mot ? C'est Advanced Configuration Power Interface.
Et ça embête beaucoup les utilisateurs d'ordinateurs sous Linux, surtout quand ils installent leur distribution préférée.
Ça embêtait énormément de jusqu'à 2010-2012. Grosso modo, c'est la période où ça a commencé à disparaître du radar parce que...
Ça casse encore un peu les pieds. Là.
Attention au comeback, toi. T'es pas prêt pour le comeback, justement.
D'accord.
Donc, la CPI, c'est en fait... Il y a quelque chose qui est assez magique avec les PC, les ordinateurs PC, hein, tels qu'ils sont définis, tels qu'on en a, par opposition aux autres ordinateurs qui ont existé et qui existent encore autour. Les PC, on a un matériel qui est complètement différent entre deux machines et on peut utiliser le même système d'exploitation. C'est quelque chose de magique. C'est ce qui a fait le succès du PC. Ça a demandé beaucoup d'efforts, etc. Et l'un des grands efforts qu'il y a eu là-dedans dans les années 90, ça a été la CPI, qui permet au matériel, au logiciel embarqué dans le matériel, le firmware, de décrire d'une façon compréhensible par le système d'exploitation, de décrire le matériel qui est présent. Et comme ça, le système d'exploitation ne doit pas se dire ben, « je sais que je vais avoir une carte son à tel endroit, une carte réseau à tel autre, etc. » Le système d'exploitation le découvre au démarrage de la machine. C'est une norme qui a été mise en place par Microsoft, Intel, Toshiba, Compaq et quelques autres. J'avoue, j'ai plus le nom de tous les Lascar en tête. Cette norme a été compliquée à mettre en place, que ce soit pour Microsoft, mais particulièrement pour les autres systèmes d'exploitation, pour une raison simple. Les fabricants ont fait un peu n'importe quoi. C'est une norme qui est très compliquée. Même encore aujourd'hui, il y a des bugs. Je vais en donner un juste après. Et autant les fabricants testaient un minimum le matériel avec Windows, mais alors testaient avec Linux, pas du tout. Et donc Linux, quand les premières versions de Linux avec support de la CPI sont sorties, j'en ai un très bon souvenir parce que j'étais déjà sous Linux à l'époque, ces premières versions s'attendaient à avoir du matériel qui respecte la norme CPI. Et ça n'a jamais été le cas. Donc au fur et à mesure, au fil du temps, il y a des contournements pour les différents bugs qui sont apparus.
Et surtout la gestion de l'alimentation et la mise en veille, qui étaient quand même les points noirs.
Et la batterie, c'est ce qu'on voyait le plus, nous, utilisateurs de Linux. Maintenant, j'ai eu des cas concrets beaucoup plus rigolos. Le PC d'un pote sous Linux n'avait pas de son. C'était un bug dans la CPI, j'ai corrigé le bug. Plus tard, le pote a ajouté une barrette de RAM, le Linux a cessé de démarrer, j'ai retiré mon correctif, le Linux a démarré avec le son.
De la sorcellerie, monsieur.
Non, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est parce que les composants matériels communiquent entre eux avec des espaces en mémoire. Ben, selon la quantité de mémoire, ils ne doivent pas discuter au même endroit. Et là, ben, dans le cas de Linux, si on démarrait avec un Linux, le matériel disait n'importe quoi. Et donc, il fallait faire mentir le matériel. Bref, les joies de la CPI. Et pour rappel, en 99, Bill Gates a envoyé un petit mail à des divers collaborateurs pour dire qu'il était très inquiet que la CPI puisse être utilisée par d'autres systèmes que Linux et que ça serait bien quand même qu'il n'y ait que Windows NT qui puisse utiliser la CPI. C'est pas passé loin à l'époque.
Et que Windows NT d'ailleurs, c'est surprenant.
Ben parce que Windows 95, 98 et Millennium...
Parce qu'il anticipait le fait que...
Oui, ouais, en 99, c'était déjà la fin de vie pour la branche 9X. Mais passons, on n'est plus sur l'archéologie informatique pour l'instant. Aujourd'hui, la CPI, ça marche plutôt bien. On a des exceptions. Il y a eu un développeur qui a sorti un rapport de bug magnifique sur un fabricant de PC portable, Asus, où sur certains modèles, si vous essayez de regarder des vidéos en ligne ou d'écouter de la musique, le PC n'est pas capable de suivre. Le PC rame. Le son est saccadé, la vidéo est saccadée. Et en fait, c'est un bug du fabricant. Le fabricant a fait une erreur colossale dans son implémentation d'ACPI. Et tous les systèmes d'exploitation du coup qui vont tourner sur ce matériel-là en respectant la norme ACPI, que ce soit Windows, Linux ou autre, tous vont subir ce ramage.
Donc même sous Windows.
Oui, même sous Windows.
Même sous Windows, d'accord. Donc là, je pense que ça a été signalé tout de même.
Ouais, mais ça fait quand même 4 ans.
D'accord.
Voilà. Et c'est pas qu'un modèle.
Ouais.
Mais en fait, il faut avoir activer le mode boost de la, enfin le mode carte graphique dédié et en fait ben ils l'ont pas testé correctement.
Voilà.
C'est marrant, mode boost, ça, ça me fait penser au mode turbo des 386.
De 486. Les 386, on n'en avait pas, il me semble. Et donc, passons, la CPI aujourd'hui encore, c'est relativement compliqué. Mais voilà, Microsoft, quand ils ont commencé à faire des Windows pour les processeurs ARM, ils ont commencé à dire, il faut que ces machines gèrent la CPI. Et du coup, moi, je m'étais dit, ben, la CPI, ça marche plutôt bien maintenant. Donc, ça veut dire que ces machines-là pourront marcher sous Linux sans avoir besoin de version de Linux spécifique à chaque machine. C'est trop bien. Enfin, on va avoir du choix et ça va être facile. Et pas du tout. Et ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et j'ai fini par tomber sur un développeur qui travaille avec ce matériel et qui a pu me donner l'explication du pourquoi, du comment. Et ça me fait très peur, à la fois pour les machines en question, mais aussi pour nos PC à l'avenir. Microsoft, avec Windows 10, donc ça fait quelques années déjà, mais moi c'était passé complètement à côté du radar parce que j'ai autre chose à faire que de regarder les spécifications techniques de comment on écrit des pilotes pour Windows. Hein. C'est pas le genre de lecture le plus agréable qui soit, ni le plus utile. Et donc, Microsoft a fait une nouveauté dans Windows 10, les PEP, Platform Extension Plugin. Kezako. Pour expliquer ça, un poil plus de contexte, pourquoi que Linux c'est trop bien et en même temps c'est compliqué avec bah, notamment les téléphones portables. Vous avez peut-être essayé d'installer une version d'Android autre sur votre téléphone portable et à chaque fois vous allez vous retrouver, si vous cherchez à installer Post-Market OS par exemple, vous devez télécharger la version qui est prévue pour votre téléphone, pour ce modèle précisément, cette version-là spécifiquement. Parce que les téléphones n'ont pas d'ACPI, il n'y a rien pour décrire. Mais ça va encore plus loin. Les fabricants des puces fournissent des versions customisées à mort de Linux, du noyau, et il n'y a que ces versions-là qui marchent sur leur matériel. Il n'y a aucun autre moyen de s'en sortir. Ce qui fait que bah, un téléphone d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, vous avez une chance sur 1 million de pouvoir le mettre à jour avec les dernières versions de Linux. Point. Les fabricants n'en ont rien à foutre, c'est pas leur business. Leur business, c'est vendre un logiciel, un matériel, le logiciel qui va avec, et après vendre le nouveau matériel qui sortira dans 2 mois. Ça, c'est la vérité sur les téléphones portables. Mais le gros avantage pour les fabricants, c'est de dire, regardez, on a pu customiser à mort, on a pu optimiser à mort la consommation, utiliser telles et telles astuces et tout, c'est trop bien. Sans réfléchir à comment faire ça de manière propre, pérenne dans le temps. Leur but, c'est juste de sortir un matériel et puis c'est marre. Et moi, je me disais que justement, Microsoft, je l'ai exprimé à cette antenne il y a quelques temps, Microsoft ne peut pas accepter ça. Microsoft ne va pas accepter que chaque fabricant ait accès au code source de Windows pour fournir sa version patchée de Windows. Ce n'est pas possible. Et donc, Microsoft, dans sa grande clairvoyance, a sorti les PEP, les Platform Extension Plugin. Et il y en a déjà pour les ordinateurs PC. Pour l'instant, ça n'impacte pas Linux négativement, mais ça va possiblement se produire. En gros, ça permet à un fabricant d'avoir une machine avec un ACPI complètement buggé. Ça ne marche pas. Ça renvoie des trucs faux. Mais
c'est pas grave.
Mais c'est pas grave parce que un pilote très spécifique, le PEP, est chargé dans Windows et dit non, ça, ce truc-là, de l'ACPI, là, non, ne l'exécute pas, c'est moi qui vais te dire la bonne réponse. Donc, Microsoft permet en fait à ses fabricants de sortir du matériel et où les fondamentaux ne sont pas d'avoir le matériel qui soit capable de se décrire pour que les systèmes d'exploitation puissent l'utiliser. Le fondamental, c'est le système d'exploitation fournit un pilote Windows, et uniquement Windows, et attention, ben pas compatible forcément à toutes les versions Windows, hein, faudra pas croire. Le matériel fournit le pilote Windows, et puis le Windows enfin, charge le pilote, c'est la seule chose qui soit garantie comme fonctionnant, et puis après, c'est le pilote qui fournit la description du matériel. Donc, avec cette optique-là, votre PC portable ARM, compatible Windows, ne sera compatible que Windows, et jamais rien d'autre. Même Apple ne va pas aussi loin. Apple n'a pas cette restriction. Apple n'a jamais mis en place un tel truc. Après, Apple n'a pas le même nombre de matériel, mais là, on s'apprête à avoir, et ça commence déjà à apparaître pour les machines avec des processeurs Intel AMD classiques, des machines où...
Apple vend du matériel.
Oui, mais ils en ont beaucoup moins. Ils ont beaucoup moins de modèles que ce que les fabricants de PC vendent. On peut s'attendre à avoir des machines Ben, pour faire fonctionner Linux, vous allez avoir un gros blocage, c'est que la machine est fournie avec un pilote indispensable, spécifique à la machine, et seul le fabricant peut le faire, et ce pilote n'est disponible que pour Windows. Ça va commencer à piquer méchamment, et étant donné que les fabricants n'ont plus trop d'options pour gagner en performance, en efficacité, etc., ils se tournent de plus en plus vers ce genre d'astuces logicielles, qui leur permettent de tricher le plus possible pour afficher les meilleurs chiffres. Ben s'ils trichent de plus en plus, on va avoir un souci. Comment on va faire, nous, utilisateurs de Linux, les logiciels libres, on va se retrouver juste bloqué. On va avoir du matériel qu'on ne pourra, avec lequel on ne pourra pas être compatible, sauf à avoir des gens qui font pour chaque matériel tout le travail nécessaire de rétro-ingénierie.
Ça dépend pas que du processeur, ça dépend aussi de la carte mère, ça dépend de tout le chip, toutes les chipsets qui se trouvent
dans
les machines.
Dans le cas des machines ARM, en fait, ça dépend du SOC. Et de tout ce qui est branché sur le SOC autour. Donc le SOC System on Chip, et en fait les machines ARM, c'est un processeur fusionné avec tout un ensemble d'autres composants qui, ben, sur un PC classique, sont séparés et ont bien leurs fonctions et leurs communications clairement définies. Dans le cas d'ARM, c'est encore plus compliqué parce que même des trucs de base comme l'horloge qui permet de rythmer le processeur, plein d'éléments super importants, ces composants-là sur ARM sont à côté et sont variables. Ils ne sont pas branchés tous de la même façon, configurés de la même façon. Donc on a besoin de cette description sur ces machines-là. Et ben ça, on ne l'aura pas. Point.
Sauf bonne volonté manifeste des vendeurs de matériel. Mais...
Et du coup, ben, la seule option pour avoir des machines ARM, une machine ARM Windows la passer sous Linux, ben, ça va être d'avoir la chance qu'une distribution le supporte. Et que ce support dure dans le temps. Et que ce support soit complet. C'est un retour en arrière de 40 ans. C'est la situation de l'informatique des années 80. Ça fait peur. Voilà.
Merci Pierre. Sujet à suivre. On va retrouver des nouvelles logiciels libres, bien évidemment, après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter à l'intérieur Soldia Biz. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com.
Parce qu'elle vient de l'intérieur.
Et les mots sur les mots, des dizaines de démos, le standard plein de mégots. C'est à la romerie, quand je ne sais plus où trouver la surface ou la sortie. Au milieu de la crasse, elle est mon éclaircie. J'entends tout le temps son appel. Non, rien n'est jamais fini. Les yeux fermés, c'est elle qui m'emmène. Loin du béton et des murs gris. Et quand parfois je plie ou lorsque sous la pluie, il m'arrive de rêver d'ailleurs. Elle revient briser la nuit parce qu'elle chante la vie. Elle vient de entreprise, elle en a connu des crises, ça fait des années qu'elle marne. Elle n'a pas fait d'épargne ni de royalties, loin des rumeurs de remise quand tous les gamers tombent en panne. Et même au milieu des sables mouvants, elle est toujours en mouvement, elle maintient le cap, même à contre-courant. Elle vient soigner mes tourments. Je suis chante mes ritournelles en fermant les yeux. Elle se déplace dans les bars, les squats sans aucun devis. Certains l'ont pensé morte, mais toujours elle revit. Particulière, les spécialistes diront qu'elle dévie. Mais elle se fout des commentaires et de tous leurs avis. Parce qu'elle vient de l'intérieur. Elle vient chanter la vie.
soigner la douleur, parce qu'elle vient de l'intérieur. Et lorsque tout est gris, je laisse encore tourner le cou.
C'était à l'intérieur, Soldia Baze. Vous écoutez l'écho des Gnous, c'est l'heure des actualités logicielles libres, bien évidemment. Et on va parler par la mère de toutes les distributions, presque, Debian 13 est sorti.
Debian Trixie.
Trixie, voilà, j'ai cherché son petit nom, voilà. Je ne suis pas assez balèze en Toy Story pour savoir à quel personnage ça correspond. Donc les versions majeures de Debian, c'est toujours un événement, hein, puisqu'elles
c'est
sont
le Triceratops.
Assez... C'est le Triceratops, merci Pierre. Je disais donc, les distributions majeures de Debian, leur sortie est toujours un événement, hein, parce que c'est quelque chose de relativement rare. C'est
pas tous les deux ans, grosso modo.
C'est pas le genre à sortir des versions pour le principe, pour tenir un calendrier. Hein, le mot d'ordre chez Debian, c'est que la version stable sortira quand elle sera prête. Donc, dans les nouveautés, donc, voilà, les derniers logiciels libres du projet, donc nous, mais pas que dans leur version stable. Donc, la version de noyau de Linux, c'est la 6.12, NOM 48, KDE Plasma 6.3, GIMP 3.04, Inkscape 1.4. Donc, une ribambelle d'architectures logicielles matérielles sont supportées. Donc, l'AMD 64, hein, donc, ce qui équipe la plupart des PC. L'ARM 64 bits. Hein,
on en a parlé.
Voilà, on ne sait pas pour combien de temps. Le RISC 5, les PowerPC 64 bits. Bon, on va pas vous
par
faire
contre,
toute la liste.
Ouais, par contre, c'est la fin du support des PC 32 bits.
Ouais, de l'i386. Donc, il est le 32 bits jusqu'au Pentium.
Compliqué celle-là.
5.
Pentium 4. Le Pentium 4 était 32 bits seulement. Il y a eu une ou deux versions du Pentium 4, mais des révisions très spécifiques qui étaient 64 bits. Très compliqué celle-là comme question.
Donc voilà, si vous voulez une version stable de Linux, alors l'inconvénient des Debian stables, c'est que vous n'avez pas forcément les derniers logiciels à jour, ce qui peut être embêtant typiquement pour Firefox. Bon, là, il y a une voie de mise à jour qui lui est dédiée. Ben, sinon, on pouvait utiliser le système de la rolling release et d'utiliser Debian dite testing, qui permet d'avoir les dernières versions, on va dire plus récentes, des différents composants d'une distribution Linux, ou pour les plus aventureux, utiliser la version SID, qui est la version unstable, donc la version de test où les premières versions des paquets sont déployées, avec au risque et péril, vous pouvez vous retrouver avec un ordinateur et une distribution franchement instable. En tout cas, Debian, c'est bon, mangez-en. Hein, ce que j'ai dit, la mère de distribution, j'ai peut-être avec Red Hat, sans vouloir nier l'antériorité pardon, de Slackware. Hein, je pense que c'est la première, si je ne dis pas de bêtises, Pierre.
Slackware, c'est l'une des premières distributions connues, mais il y en a d'autres qui peuvent virer.
Pierre, on connaîtrait une encore plus récente,
ouais,
ancienne.
Il y a plus vieux, mais...
Il y a plus vieux, Slackware, je dirais que c'est quand même la douanière... Mais y arriver, c'est la reprise, hein, ne vous inquiétez pas, c'est la doyenne des distributions connues. Slackware qui est réputé pour sa prise en main relativement ardue pour le néophyte, et pas forcément que pour le néophyte d'ailleurs. On va parler de la première version de la distribution KDE Linux.
Juste voilà, il y a au moins Yggdrasil, MCC Interim et Soft Landing Linux System qui sont plus vieux que Slackware.
Ouais,
non,
ouais.
Mais j'étais plus
sûr. Tu savais pas citer une autre distribution que Slackware de tête, Pierre.
Yggdrasil, j'étais plus sûr de la date de naissance.
D'accord. Donc Pierre, toi qui es un fervent supporter du projet KDE, même un contributeur du projet KDE, donc tu veux fêter la première version de la distribution KDE Linux. Mais alors, quel est l'intérêt d'une distribution portée par le gestionnaire de graphique KDE ?
Alors,
le gestionnaire de bureau plutôt.
Voilà, c'est déjà une question à laquelle ils avaient dû répondre lorsqu'ils avaient fait une première distribution Neon. Et c'est juste que l'effort autour de Neon plutôt en déclin parce qu'il y a ce nouveau projet qui a été lancé.
Parce que maintenir un environnement de bureau, c'est quand même du boulot.
C'est du boulot.
Faire une distribution Linux, c'est du boulot. Faire les deux, c'est quand même une tâche assez titanesque.
Tout à fait. Et en fait, la logique de ce projet n'a jamais été de faire tout le travail de maintenir une distribution Linux. En fait, le projet Neon, c'était une version d'Ubuntu LTS avec les derniers KDE et tout l'environnement KDE complet pour montrer à quoi ça ressemble vraiment un système conçu pour exploiter à fond le projet KDE. Le problème, c'est que le projet Neon a échoué parce que c'est très compliqué de partir d'une base mouvante comme la Ubuntu LTS et qui n'est pas du tout conçue dans cette optique-là. Et en fait, ils ont eu de l'expérience avec les consoles Steam, notamment sur le fonctionnement de SteamOS. C'est assez intéressant pour eux, ils s'en sont bien inspirés et ils ont décidé de créer une distribution KDE Linux dont le but est de montrer, ok, voilà ce à quoi peut ressembler une distribution moderne.
C'est un démonstrateur, en fait.
Voilà. C'est un démonstrateur qui se veut utilisable. Aujourd'hui, il ne l'est pas parce que c'est une première version alpha, mais ce qu'il prévoit est assez intéressant. Je ne dis pas que c'est la perfection, que ça va résoudre tous les problèmes du monde, etc. Mais grosso modo, leur but, c'est de fournir une distribution utilisable sur une base immutable, en anglais, et je ne sais plus comment le dire, je ne sais pas trop comment, immuable, en français. En gros, le système ils vont utiliser toutes les technologies récentes, donc de système D, BTRFS et autres, pour que le système soit diffusé comme un ensemble de fichiers assez peu nombreux. Il n'y a que quelques fichiers qui constituent la base du système. Et en fait, on bascule d'un système à l'autre. Et tu peux en avoir 4 ou 5 maintenus en parallèle sur ton système. Et tu fais, ah mince, là, la dernière mise à jour, elle a échoué. Bon, ben, je repasse sur le système précédent. Mais mes fichiers sont toujours là, puisque mes fichiers sont séparés. Les logiciels sont... Enfin, cette base est immuable, donc les logiciels sont installés à part avec les Flatpak et autres. Et en fait, ça devient une distribution extrêmement moderne. Alors, c'est un point de vue.
C'est très modulaire comme architecture.
C'est très modulaire, mais c'est aussi très, très moderne. Il y a des tas de distributions qui sont actuellement entre les deux, avec un gestionnaire de paquets traditionnel et les Flatpak, Snap et autres. Eux, il n'y a pas de gestionnaire de paquets, c'est Flatpak ou rien. C'est un choix. On verra à l'usage ce que ça donne. Pour l'instant, il y a une première alpha. Clairement, vous pouvez l'essayer si vous avez envie. Mais c'est pas... C'est la peinture est fraîche. Ils ont même dit, on ne prend pas de rapport de bug parce qu'on sait qu'il y en a, on les connaît. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et si vous avez envie de contribuer, installer, tester et contribuer.
Et montrer quel est le meilleur usage qu'on peut faire de l'environnement de bureau KDE.
Tout à fait, ça reste le fondement de cette distribution.
Autre version logicielle LibreOffice 25.8, donc sortie fin août.
Cet été.
Ouais. Quelque chose de particulier, Pierre ?
Non, bah voilà. C'est la routine. Hein,
voilà,
c'est
la routine habituelle.
La routine habituelle, meilleur support de certains formats de fichiers propriétaires, des performances améliorées sur Writer et Calc, sur l'ouverture des fichiers, donc ça peut toujours être pas mal. Et des améliorations à droite à gauche. Plus notable autour de LibreOffice, c'est qu'ils commencent à travailler sur l'inclusion de Rust.
Hein, LibreOffice, qu'il est mieux que celui d'avant, et celui d'après, il sera encore mieux que celui-là.
Voilà.
Et LibreOffice, c'est bon, mangez-en. On parlait archéologie informatique. On va ici l'évoquer. Le code de BASIC 1.1 a été rendu disponible, le code source. Merci Microsoft pour ce cadeau à la communauté informatique tout entière.
Voilà, le code source en question avait... 49 ans. Donc bon, c'est en gros ça a une importance historique uniquement, hein, puisque c'est le code qui a grosso modo lancé. Voilà, c'est le code qui a lancé Microsoft quasiment. Donc voilà, c'est 7000 lignes de code quasiment en assembleur pour processeur 6502. Mais ceux qui sont intéressés en tout cas peuvent lire le code en question. Alors, ils n'ont pas fait l'effort de recréer toute l'histoire du code. Ils ont juste mis le code tel qu'il était au 27 juillet 78. Ils n'ont pas recréé l'historique avec les différentes versions qui ont eu lieu avant, etc. C'est dommage, je trouve. Mais voilà, si vous voulez voir ce morceau d'histoire, vous pouvez. Et autre morceau d'histoire qui a été retrouvé, celui-là, parce qu'il avait complètement disparu. Ça date d'une époque complètement oublié des années 90 où même Microsoft ne croyait pas en l'avenir d'Intel. Ils disaient, ça part droit dans le mur, leurs processeurs, ils vont se péter la gueule parce qu'ils vont pas réussir à franchir les gros obstacles qui sont à l'horizon. On va investir un peu partout. Et donc Microsoft avait commencé à faire des versions de Windows pour processeurs Alpha, MIPS, Power, et d'autres encore. Et il y a eu des versions de Word qui ont été trouvées pour certains de ces processeurs, parce que bah, Microsoft avait aussi porté Office sur ces plateformes-là. Mais on n'avait jamais retrouvé la version des versions de Word pour Power à l'époque.
Et là, on a la jolie boîte.
Voilà, et bien la boîte a été retrouvée avec le CD dedans. Et donc les musées de l'informatique ont désormais ce souvenir d'une époque où même Microsoft ne croyait plus en Intel.
Avant de passer rapidement aux actualités sécurité informatique et de la musique, nous allons saluer l'initiative de la mairie de Lyon qui va donc abandonner Microsoft. Dernier exemple en date, il y a eu Bordeaux, il y a eu Munich hein, qui a parlé de lui il y a assez longtemps. Donc OnlyOffice va remplacer Microsoft Office. Donc OnlyOffice est une version basée sur OpenOffice en ligne.
Non. C'est pas basé sur
LibreOffice, pardon.
Non, c'est basé sur aucun des deux, hein, t'inquiète.
Je suis persuadé que c'est basé sur LibreOffice.
Non, du tout. OnlyOffice est indépendant. Et moi, mon gros problème que j'ai avec OnlyOffice, c'est qu'ils supportent pas le format Open Document. Ils sont sur les formats Microsoft. OnlyOffice n'est pas basé sur LibreOffice ni sur OpenOffice. C'est une suite qui est vraiment conçue de A à Z. Je t'invite à chercher les efforts pour porter LibreOffice ou OpenOffice sur le web. Ne sont pas liés à ça du tout.
Je confonds avec ce que j'avais vu, Fosdem. Excuse-moi, Pierre.
Non, il n'y a pas de problème.
Bon, sur le bec. Paf. Et donc, on va quand même remplacer Windows par Linux. Et PostgreSQL va remplacer les bases de données. Donc, on lit en plus, c'est rigolo, c'est l'anagramme de Lyon. Voilà, pour la petite histoire, donc, l'initiative, bon, c'est difficile d'abandonner les formats propriétaires de Microsoft. On l'entend bien. Nous allons écouter un troisième morceau de musique Pulsar, Souvenir Brûlant, sur l'écho des Gnous, sur Radio Campus, sur le 106,6 et sur lecampuslille.com.
Quatre cerveaux en flammes, village martyr brûlé, tout s'embrase. Les Allemands entre fusils chargés, résistants tombent sous les balles folles. Combattons notre espoir dans leurs mains, cerdonnés, déportés, destin cruel. Les cendres d'un village mémoire en ruine, souvenirs brûlants dans le vent hostile. Après la tempête, fusillés tombés, mes esprits debout. Des cris, des pleurs résonnent encore. Mémoire d'acier dans sang ardente. Sœurs d'ombre brûlées, mes âmes vaincues. Des larmes en feu coulent sur nos jours. Brûle, souvenirs d'acier, mais nous restons. Des ombres, mémoire vive dans les cœurs soldats, 12 juillet marqué au fer rouge. Souvenir brûlant, combat jamais mort.
C'était Pulsar, souvenir brûlant. Vous écoutez les Codex News sur Radio Campus 106,6. Un petit point sur les actualités sécurité informatique. Pierre, on va parler de Google qui continue d'enterrer AOSP.
Tout à fait, ou comme dirait l'autre.
Oh, monde de merde.
Voilà, là, c'est une nouvelle saison, on garde pourtant les mêmes jingles. Donc, Google enterre AOSP assez méchamment même. Donc, officiellement, tout va bien, on continue à AOSP. Donc, AOSP, qu'est-ce que c'est ? C'est Android Open Source Project. C'est ce qui fait que Android est considéré comme libre avec des extrêmement gros guillemets. Et donc, Google, ça fait quelques temps qu'ils mettent de plus en plus de clous dans le cercueil. Et là, celui-là, il est assez gros. Donc, ils ont décidé de changer définitivement la façon dont ils gèrent les mises à jour de sécurité d'Android, enfin d'AOSP, pour être plus gentils avec les fabricants de téléphones Android qui n'appliquent pas les mises à jour assez vite, tout en emmerdant tous les autres. Ils ont réussi le combo gagnant. Donc, grosso modo, en gros, au lieu de faire des mises à jour tous les mois, les mises à jour, elles seront une fois par trimestre. Des fois, il y aura des mises à jour urgentes sur le mois seulement. La conséquence, c'est que vous allez avoir au sein d'AOSP moins de mises à jour encore qu'avant. On en a déjà parlé il y a quelques temps, il y a eu déjà un premier ralentissement des mises à jour. Là, c'est encore un deuxième. Et donc, et là, qui concerne la sécurité. Donc, vous allez avoir des tas de gens qui vont avoir des téléphones Android, mais même des téléphones officiels, sans que les mises à jour pour des failles connues soient appliquées.
Ce qui est paradoxal, puisque les fabricants ont tendance à communiquer sur l'augmentation de la durée de support des téléphones.
Oui, mais ça ne veut pas dire que les mises à jour sont. Les failles sont corrigées rapidement. Voilà.
Ça sera supporté plus longtemps, mais les failles sont corrigées moins vite.
En fait, ça va être supporté plus longtemps, mais il y aura moins de mises à jour. Donc du coup, il y a moins de travail. Et voilà, chapeau, bravo les gens. Encore une fois, s'il y avait besoin de montrer à quel point ce modèle est malade.
Une dernière, voilà. Pierre, on n'a plus beaucoup de temps. NPM est une calamité à échelle industrielle. Tu te poses la question, mais je pense que tu vas y répondre très rapidement.
Ben plutôt, l'attaque qui est en cours sur NPM est une calamité industrielle comme on en a rarement vu et mérite qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc NPM, c'est un univers d'extension pour le langage JavaScript, langage très populaire côté serveur et interface web. Et donc c'est un ensemble de modules, on en a déjà parlé parce qu'il y a déjà eu des attaques sur ces modules-là. Et là, il y a une attaque particulièrement vicelarde qui a eu lieu. Donc ça a commencé par un développeur qui a cédé à un mail de phishing, lui indiquant que son authentification n'était plus à jour et qu'il devait se reconnecter sur une page web. Il s'est connecté sur la page web, manque de bol, c'était pas la page officielle du projet NPM, mais une page de phishing qui a récupéré ses identifiants.
Personne n'est à l'abri. Hein.
Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là ? Les pirates ont récupéré l'ensemble des projets auxquels il avait accès et ont injecté dans chacun de ces projets une nouvelle mise à jour qui contenait leur verre. Le verre en question récupère sur la machine du développeur les identifiants auprès du dépôt NPM et se réplique dans tous les modules pour se propager. Et ça a propagé très rapidement des dizaines de milliers de projets, des centaines de... On ne sait pas encore, pour l'instant, l'ampleur des dégâts. On ne sait pas où est-ce qu'on en est. Ça va probablement avoir un impact mondial. On ne sait pas encore où...
Quel est l'impact ? On va faire rapidement pour l'utilisateur lambda, pour l'internaute de base. Quelle est la conséquence ? Rapidement.
Alors, aujourd'hui, il n'y en a pas encore eu, a priori.
Mais qu'est-ce qu'on anticipe ?
Ben, en fait, comme ce code derrière est appliqué sur les pages web, pour des utilisateurs lambda, ça va être vous allez sur un site web et le site web, ben, il y a eu une mise à jour et puis ben, la mise à jour, ben, c'est quelque chose qui est injecté sur la page web qui récupère vos identifiants.
Et là, du coup, c'est puisque le JavaScript, c'est très utilisé, c'est comme du code qui s'exécute sur votre ordinateur via votre navigateur internet.
Ou ça va utiliser votre machine pour crypter, enfin pour miner des crypto-monnaies.
Il a dit crypter.
Oui, ben, c'est des crypto-monnaies en fait, c'est compliqué. Bref, il y a beaucoup d'usages assez néfastes de ce genre de choses. Et en une seule journée, ça a atteint des centaines de paquets. Et des centaines de paquets, derrière, c'est des millions de projet.
Est-ce qu'il y a une action de remédiation ou c'est foutu? Il faut à part arrêter la diffusion du verre.
Il faudrait enfin que les développeurs arrêtent de se dire je mets à jour toutes mes dépendances et tout va bien et j'ai des tas de dépendances qui font rien du tout, mais c'est bien parce que ça m'évite d'écrire une ligne de code, d'avoir cette dépendance que je comprends
pas. C'est
un problème de mentalité très grave à régler.
Merci Pierre, c'était le 286e numéro de l'Écho des Gnous, la première de la 16e saison. On se retrouve dans deux semaines pour l'Écho des Gnous 287. Nous serons le dimanche 5 octobre à 19h comme d'habitude sur Radio Campus. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin week-end. Au revoir, merci à tous.
Bye bye. Toutes.